De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, c'est Cinérama avec aujourd'hui eh bien essentiellement des films qui sont dans les salles depuis le 27 novembre et puis l'occasion pour vous, chers auditeurs, de jouer un blind test. Vous écouterez 5 extraits et il faudra découvrir les titres. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors toi, ce sont 2 films et 2 livres.
Oui, notamment L'Orphelinat, un second long métrage d'une jeune réalisatrice afghane. Et puis, je vous parlerai d'Âme perdue, ressortie d'un film de Dinori de 77. Et puis, je vous parlerai aussi de 2 livres, Le sang de rouge profond et L'ex-cinéma.
Quant à moi, je vous parlerai de Freedom, un film australien qui va être présenté à l'Académie des Oscars. Et puis, ce sera l'occasion donc de jouer un blind test spécial film traitant de l'esclavage. Mais on commence avec une chanson douce, un film très attendu de Lucie Borletteau, puisque c'est l'adaptation d'un Goncourt, celui de 2016.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors, c'était sûrement une comédie.
Avec 2 enfants, tout est devenu plus compliqué. J'étouffe. Je cherche une nounou.
Alors moi, je m'appelle Louise.
Plus de 900 000 exemplaires vendus d'un livre primé au Goncourt valent-ils le coup qu'on en tire un film? Le cinéma doit-il épuiser le filon d'une histoire qui attend plus? On peut se poser les questions et ne pas donner les réponses. Mais il est très probable que beaucoup de spectateurs veuillent se rendre dans la salle de cinéma pour voir Chanson douce parce qu'ils auront lu le best-seller de Leïla Slimani, le prix Goncourt, en 2016. Ça sera au moins ça de gagné. Mais pas certain que le film puisse bien soutenir la comparaison avec le roman. Alors, mais pas forcément parce qu'il est raté, parce que c'est souvent difficile. La transposition d'un roman au cinéma. Alors si cette adaptation cinématographique d'un double infanticide devait être au départ mise en scène par Mai Wen, c'est en fait Lucie Borletteau qui a hérité du projet. Et pourquoi pas, la jeune réalisatrice a réalisé un très bon premier film il y a 5 ans, Fidelio, l'Odyssée d'Alice, qui revisitait avec talent le film de Marin en nous embarquant sur un bateau avec une femme mécanicienne. Il a aussi fallu trouver alors un casting à la mesure du succès littéraire. Le couple qui livre ses enfants à une nounou rigide pour finir Borderline est interprété par Léla Bekti et Antoine Reynards, qu'on a vu dans 120 battements et qui a beaucoup joué en 2019 et qu'on va beaucoup voir donc sur les écrans. Couple hyper crédible, la trentaine, lui musicien professionnel, elle avocate qui a voulu faire une pause maternelle mais qui finalement aimerait plutôt faire autre chose comme son travail pour lequel elle ramène plein de dossiers à la maison. Un couple moderne, parisien, à l'abri du besoin, qui peut bien prendre une nounou payée avec les heures sup. Et il trouve la candidate idéale pour garder leurs 2 enfants, Mila, 5 ans, et Adam, 10 mois. Et c'est Louise qui a été choisie, une femme entre 2 âges, veuve, qui a un premier contact alors remarquable avec les enfants et qui, dès le premier jour, brique tout l'appartement. Alors quand on n'a pas le temps, on est bluffé. Et les deux parents, le sont. Elle est engagée la journée, le soir, quand il faut sortir s'amuser. Et puis tiens, les vacances, comme ça, on en profite vraiment.
Donc je garde des enfants depuis très longtemps. J'ai principalement travaillé pour 2 familles. J'ai suivi et accompagné leurs enfants pendant de longues années. Et je dois reconnaître que c'est ce travail-là qui me convient le mieux, le travail suivi. Bonjour Mila. C'est Mila ton prénom? Moi c'est Louise mon prénom.
Et vous avez des enfants?
Oui, j'ai une fille, Stéphanie, que j'ai élevée avec mon mari Jacques. Mais bon, maintenant Jacques est mort. Mais Stéphanie est grande, elle a 25 ans.
Alors si au premier abord cette Louise est adorable, on l'entend d'ailleurs, la mise en scène nous aide tout de même à nous méfier de cette première impression. Geste cinématographique important, la réalisatrice n'entame pas son film comme le roman. Alors je ne dévoilerai rien des premières pages du livre à 900 000 exemplaires vendus, mais ce choix de la réalisatrice est salutaire car il nous permet d'être en empathie avec une nounou qui, il faut bien le dire, devient, à mesure que le film avance et que les enfants grandissent, toujours un peu plus inquiétante. Elle est capable de se fermer dès qu'un événement la contrarie et des séquences montrant sa solitude dès qu'elle n'est plus en contact avec cette famille nous laissent entrevoir un désert sentimental. Un jeu trouble s'instaure donc, plaçant le spectateur aux premières loges. Et pourtant, eh bien, au-delà de tous ces petits dérèglements, elle sait parfaitement éduquer les enfants. La mise en scène insiste sur ce trait. Une nounou prend une place affective et vient également, eh bien, en concurrence avec les parents. Le personnage de Leila Bekti, eh bien, sent bien que Louise lui enlève une part d'intimité avec ses enfants, mais elle la décharge tellement qu'elle, eh bien, voilà, elle fait ce choix. Un personnage détonnant, c'est la belle-mère, hein, une 68arde, qui ne manque pas de pointer cette schizophrénie de la vie moderne, vouloir des enfants sans en assumer le temps qu'ils enlèvent. Le film se construit sur la critique d'une société finalement qui sacrifie quelque chose de la famille.
Elle est super, votre nounou. On voit qu'elle aime vos enfants.
Louise ?
Vous venez de plus en plus tôt.
Louise ?
Oui, je dors très peu.
Louise !
Je m'inquiète pour Mila. Elle passe plus de temps avec elle qu'avec nous. Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare.
Puis j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre. À part les enfants, hein.
Et tu vas faire comment quand ils seront plus là ?
Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent.
Ce film qui adapte un roman horrifique ne l'est pas tant que ça. Il emprunte quelques codes au genre tout de même, comme la musique avec des jumpscares aussi, bon, qui sont un peu mous. Mais il prend aussi le contre-pied car il se déroule le plus souvent en plein jour dans une lumière crue. Il n'est pas question ici de cacher pour mieux exposer. Le film tire également vers le fantastique pour tenter de décrire la folie, hein, qui s'empare peu à peu de cette nounou, très bien incarnée par Karine Viard, qu'on connaît moins dans ce type de rôle. Alors j'ai appris que c'était elle qui avait porté le projet initial en fait, hein. Elle voulait absolument de ce rôle après avoir lu forcément le roman. Elle faisait partie des 900 000 qui avaient acheté le Goncourt 2016. Alors la fin est un exemple de ce que le hors-champ permet de révéler au spectateur. Le tout est un objet filmique qui va remuer les parents spectateurs, mais probablement aussi les questionner. Il y a aussi bien une attention sur le son, avec voilà, une très bonne attention sur le son.
C'est marrant, ça rappelle un peu le sujet de La main sur le berceau avec Rebecca de Mornay, un film des années 90.
Ah, que j'ai pas vu.
Un film américain.
Ouais.
Avec une nounou psychopathe.
Ouais. Ben là, c'est adapté d'un fait divers. Alors, initialement, c'est un fait divers qui s'est déroulé à New York, je crois, dans les années 2000. Voilà, il était question de Une chanson douce de Lucie Borletteau, à peu près dans tous les cinémas, depuis le 27 novembre, ce qui n'est pas le cas du film dont tu vas nous parler, hein, qui est une espèce d'inspiration bollywoodienne. Mais en Afghanistan, c'est...
L'Orphelinat.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Et non, il ne s'agit pas d'ailleurs d'une reprise, hein, du très beau film d'épouvante de Juan Antonio Bayona, produit par Guillermo del Toro, sorti en 2006, mais d'un film afghan plutôt atypique, présenté à la dernière quinzaine des réalisateurs à Cannes. Alors, seul point commun, hein, comme le titre l'indique, hein, il est bien question d'orphelinat. Le récit se situe à la fin des années 80, dans un pays occupé par l'armée soviétique. Hein, le jeune Kodra, 15 ans, survit comme il peut dans les rues de Kaboul. Alors sa passion, les films de Bollywood, qu'il réinvente sans cesse dans son esprit, rejoint alors les grandes scènes cultes de ces super-productions flamboyantes projetées dans des cinémas de quartier. Alors rattrapé par la police pour un délit mineur, le trafic de places de cinéma au marché noir, hein, il est emmené et intégré à l'orphelinat soviétique de la ville à la veille de grands changements politiques. Kodra se retrouve enfermé, mais aussi paradoxalement protégé dans ce lieu avec d'autres adolescents n'ayant plus de famille. Alors s'inspirant du parcours chaotique d'un de ses amis d'enfance, alors Shahrano Sadat signe après Wolf and Sheep, un second long métrage original et surprenant qui évite certains écueils inhérents à la chronique sociale située dans un contexte historique belliqueux. Alors rien n'est à charge, la jeune cinéaste dresse un portrait sensible d'adolescents livrés à eux-mêmes pris dans la tourmente d'une situation politique complexe. Elle filme les conflits, les raquettes, mais aussi les amitiés naissantes de ces jeunes qui se serrent les coudes et apprennent à vivre ensemble. Alors ni critique ni juge des actions des uns et des autres, elle se révèle étrangement bienveillante envers le directeur de l'école et puis aussi l'un des éducateurs qui transmettent un enseignement, on va dire, de propagande communiste, en ayant pourtant l'air de ne pas y croire pleinement, hein, davantage attaché à la sécurité de la petite communauté, victime indirecte du conflit extérieur. Alors, comme on peut s'en douter, la musique n'intervient que lorsqu'il y a des passages de cinéma à la Bollywood. Hein. Ce n'est pas le reste du long métrage. Voilà, il n'y a pas de musique sinon. Ouais. Hein. Alors ce petit film inabouti mais charmant surprend par sa manière insolite de combiner donc des genres a priori antinomiques, alliant un cinéma semi-documentaire filmé dans un style naturaliste, alors qui privilégie les plans-séquences caméra à l'épaule, alors avec évidemment les incursions délirantes, pastiches à peine détournées des mélos made in Bollywood, intégrant donc la forme colorée et bigarrée du cinéma indien. Alors Shahrukh Sadat a bien digéré les codes visuels de ce genre très populaire en Afghanistan, multipliant les zooms, les mouvements de caméra acrobatiques et le montage clip orchestrant des chorégraphies délirantes sur fond musical peuplé de chansons célébrant l'amour. Alors cette dimension onirique et kitsch, permettant aux généraux de s'évader et de supporter le réel, alors souffre parfois d'une approche superficielle et surtout plaquée, n'articulant pas toujours avec fluidité les deux versants du film. Les inserts fantasmés à la manière de Bollywood, imaginés par le jeune héros, n'apparaissent pas toujours pertinents, simple prétexte à dédramatiser un sujet grave. Et pourtant, à la fin, pirouette délirante, qui ressemble presque à du Tarantino, c'est assez surprenant, trouve sa raison d'être en tournant en ridicule les talibans, qui vont désormais imposer un état islamiste. La dure réalité à venir trouve alors un échappatoire cathartique, le temps de ce petit film et surtout de cette fin, plein de panache et de bonnes intentions, qui pâtit d'un scénario déséquilibré, mais bénéficie aussi de la fraîcheur de jeunes comédiens non professionnels qui sont tous excellents.
Eh bien, merci. Donc, ce film, j'arrive pas à le retenir.
L'Orphelinat. Pourtant, il y en a plein qui ont des titres un peu équivalents.
L'Orphelinat, donc, en salle depuis le 27 novembre. Tout comme Freedom de Rod Rajen, l'esclavage moderne en Asie du Sud-Est.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
On a notre film qui va représenter la France aux Oscars, c'est Les Misérables, film de Ladjili actuellement sur les écrans, un film d'action politique et sociale. Et bien les Australiens, eux, vont proposer Freedom de Rod Rajen, un film lui aussi social et politique qui met en scène un sujet qui en rejoint deux, l'émigration et l'esclavage. Alors ce qui surprend d'emblée avec Freedom, c'est qu'on perd nos repères d'occidentaux concernant l'immigration. On est davantage habitués, nous, à voir des histoires se déroulant en Afrique avec des candidats voulant rejoindre l'Europe. La preuve encore avec Atlantique de Mati Diop, sorti il y a peu. Avec ce film australien, nous sommes envoyés au Cambodge dans une rizière pour ensuite émigrer vers la Thaïlande. Un parcours pour nous occidentaux qui est davantage une excursion touristique. On peut imaginer commencer ses vacances auprès des temples d'Angkor et puis terminer son séjour sur les plages thaïlandaises. Alors là, évidemment, c'est une autre histoire, celle des milliers de Cambodgiens qui quittent leur pays pour la Thaïlande dans l'espoir d'être embauchés dans une usine pour avoir de quoi envoyer de l'argent au village. Mais la réalité est tout autre. Moins de 10% de ces migrants reviennent chez eux. Une grande partie de ces pauvres travailleurs se font embarquer sur des bateaux de pêche et n'en descendent jamais. Le deuxième thème, qui découle donc du premier, est celui de l'esclavage moderne, une situation contre laquelle les autorités du pays semblent impuissantes. Pourtant, les campagnes de pêche menées en mer de Chine apportent beaucoup de devises à la Thaïlande, et ça se voit sur les comptes. L'histoire de ces hommes est vue au travers du parcours du regard de Chakra, un jeune Cambodgien de 14 ans, qui en a assez de trimer dans la rizière, d'autant que son avenir se résume ensuite à travailler pour son frère. Alors il décide, sans en avertir sa famille, de partir pour la Thaïlande sans argent. Il pense qu'il pourra, comme on lui a dit, rembourser son voyage en travaillant. Mais en arrivant là-bas, il est piégé par son passeur et vendu avec d'autres comme un vulgaire esclave. Il embarque sur un bateau de pêche crasseux à ramasser du poisson qui servira à fabriquer des aliments pour les chiens et chats d'Europe ou d'Amérique. Dure réalité que voilà, embarqué sur une prison à ciel ouvert, le jeune Chakra va devoir serrer les dents et grandir bien trop vite. Oh oh. Pour mener son récit, Rod Rajen ne s'embarrasse pas. Si l'on voit le travail durement mené et les rapports de soumission au quotidien, nous sommes régulièrement confrontés à la cruauté d'un capitaine qui n'a pour seule excuse que d'avoir grandi lui-même sur un de ses bateaux d'esclaves. Le mal engendre le mal. Ce capitaine tyrannique tend quelquefois la main à son jeune esclave qui lui ramène les quelques rares beaux poissons qui se prennent dans les filets, mais il le considère toujours comme sa bête. Le récit, d'abord poignant, prend une autre dimension avec la montée en puissance de la cruauté et de l'irrémédiable. On voit comment les hommes survivent ou trépassent selon leurs actes, selon leurs chances aussi. Le film s'épanche alors vers le thriller social et le parcours initiatique d'un adolescent qui va devoir trouver les armes pour survivre et peut-être fuir ce macabre destin. Alors Freedom a de quoi déstabiliser tant par son sujet que son confort formel. Avec le confinement des espaces et la mer comme seul horizon, le huis clos sur un rafio n'a rien d'une promenade cinématographique facile. Choisissant une belle lumière, le réalisateur nous laisse voguer sur la mer de Chine méridionale avec ses tons bleutés, mais nous envoie aussi au fond de la la cale où la solidarité n'est pas toujours au rendez-vous. Le récit manque peut-être parfois de rythme ou disons que le réalisateur joue aux montagnes russes. Hein. L'accalmie laisse la place à la cruauté du capitaine. Le film est parsemé donc de scènes violentes dont le réalisateur gomme la nuisance sur le spectateur mais pas la portée symbolique et horrifique. Roth Rajen n'est pas non plus un adepte du hors-champ pour autant, mais il ne se vautre pas tout à fait dans une surreprésentation de la violence. Freedom se regarde donc avec intérêt. Hein. Il a au moins l'audace de présenter une thématique à peu près méconnue de ce côté-ci de la planète. Il le fait sans un regard moralisateur qui n'aurait rien apporté de plus, tant on sait très vite hein, où se trouvent les bons et où sont les méchants. Freedom de Rolf Rajen nous donne l'occasion de jouer un blind test. Et comme chaque blind test, eh bien, ce sont 5 extraits que l'on va écouter. Tous ces films traitent de l'esclavage d'une manière ou d'une autre. Premier extrait.
La seule possibilité d'acheter ou de vendre des esclaves, c'est qu'ils soient venus au monde, esclaves, par exemple, sur une plantation. C'est bien cela, n'est-ce pas?
Oui.
Bon, alors le sont-ils?
Le sont-ils?
Oui. Sont-ils venus au monde esclaves sur une plantation?
Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, mais nous pensons que non.
Bien, ce sont des esclaves. S'ils le sont, ce sont de simples biens et ne méritent pas plus un procès pénal qu'une bibliothèque ou une charrue. Et nous pouvons tous rentrer chez nous. D'un autre côté, disons que ce ne sont pas des esclaves. S'ils ne le sont pas, ils ont été acquis illégalement, n'est-ce pas? Oubliez la mutinerie, la piraterie, oubliez le meurtre et tout le reste. Ce sont des événements hors de propos et postérieurs. Ignorez tout sauf la véritable origine de l'affaire. Le transfert injustifié de biens volés.
Ça a été trouvé, Manu.
Amistad de Spielberg, film de 97.
Oui, c'est bien, tu as tout dans l'ordre. Inspiré de faits authentiques, hein, une mutinerie d'un groupe d'esclaves africains transportés à bord de la Amistad en 1839 et qui est devenu donc un symbole du mouvement pour l'abolition de l'esclavage. Ça fait 630 000 entrées en France, ce qui pour un Spielberg finalement est un petit score. Deuxième extrait.
Un gladiateur vaut deux soldats romains, ils n'ont rien à nous apprendre.
C'est vrai, nous avons battu nos gardiens, mais une armée romaine c'est différent. Ils ont appris à faire la guerre, pas nous.
Mais nous battrons tous ceux qu'ils enverront contre nous si nous en avons la volonté.
Il faudra une armée nombreuse.
Nous aurons une armée nombreuse quand nous nous mettrons en marche. Nous libérerons les esclaves de toutes les villes et de tous les villages. Qui rassemblerait une armée plus nombreuse que celle-là?
Tu as raison, de l'autre côté des Alpes, nous serons saufs.
Jamais nous ne franchirons les Alpes, dis-toi bien que chaque col est bloqué par une légion.
Il n'existe qu'un seul moyen de quitter l'Italie. La mer.
Alors, c'était la voix française de Kirk Douglas.
Donc, c'est Spartacus de Stanley Kubrick.
Oui, ça, c'était facile. Film de 1960, Kubrick qui remplace Anthony Mann. Et 3,5 millions d'entrées en France. C'était beaucoup plus donc que Spielberg auparavant. Troisième extrait.
Je ne sombrerai pas dans le désespoir. Je préfère offrir mes talents à Maître Ford. Je vais continuer de me tenir debout jusqu'à ce qu'on me rende ma liberté.
Oh, tu crois que c'est Ford qui te la rendra? Tu crois qu'il ne se doute pas de tuer bien plus que tu ne le montres? Pourtant, il ne fait rien pour toi. Rien du tout. Tu n'es rien de plus pour lui qu'une belle bête. Appelle-le. Allez, raconte-lui comment tu t'es retrouvé ici. On verra bien ce que ça te vaudra sans le nom. À moins que tu n'en sois venu à te plaire dans le rôle de plate.
Alors, ah ben là, je sais.
Ben, c'est pas le film de Steve McQueen?
Oui.
20 Slave...
12 years.
12 years,
pas,
voilà.
Pas 20.
Ouais.
Il a pas passé 20, que 12 ans. Ouais, voilà. Ouais, c'est l'histoire d'un homme donc, noir, libre aux États-Unis, hein, qui ensuite est vendu à des esclaves. Il ne recouvre sa liberté que 12 ans après voilà, presque 1,7 million de spectateurs en France.
Regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
Il a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
Oh, un animal.
Regardez, il bouge ses doigts.
Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
Oh, mais il a peut-être compris.
Sottise, l'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout.
Alors, gros indice, là, parce qu'il y a une bascule entre l'homme et l'animal.
Oui, et puis là, quand on a vu le film, on reconnaît très vite la voix de Zelda. Oui. Donc, c'est La planète des singes de Franquin J. Schneffer de 68.
Oui, avec Charlton Heston et 1,7 million d'entrées en France, comme le film de Steve McQueen, finalement. Allez, dernier extrait.
Bonjour, commandant.
Le jour serait meilleur, mon cher queue de plume, si vous alliez vous faire foutre ailleurs.
Hélas, je ne peux vous donner cette satisfaction. Car dès lors, je ne pourrais pas vous informer du passager clandestin que j'ai découvert en mes quartiers.
Un clandestin?
Ce choix n'était pas le sien, je vous l'assure. L'homme m'a certifié qu'il était un marin, de première classe, capable de gagner son passage si vous lui offrez sa chance.
Un clandestin, c'est toujours un clandestin, même s'il chie des pépites en argent.
Est-ce qu'il vous a expliqué certaines choses ?
Entre autres, il m'a dit que leur objectif était de créer un facteur doté de libre arbitre. Yuna avait échoué. J'étais leur dernier espoir.
Alors, bah c'est bien quand tu sèches aussi, hein, oui, finalement. Bah oui, alors, bien. Je ne sais pas si les auditeurs ont séché ou pas là-dessus, sur ce cinquième extrait. Alors, c'est un film, en fait, qui est composé de plusieurs segments, six histoires à différents moments.
Cloud Atlas ?
Oui, voilà.
Oui, pas évident sur l'esclavage.
Pas évident, mais il y a quand même, à chaque fois, dans chaque histoire, il y a bien. Les conséquences de la première histoire où il est question de l'esclavage. Donc, Cloud Atlas des sœurs Wachowski et de Tom Tykwer, qui avait fait une partie des segments. Film de 2013 avec donc bien de nombreux comédiens qui jouent différents rôles, et y compris, alors ce qui est amusant quand on sait que les réalisateurs sont devenus des réalisatrices à l'intérieur aussi de ce film-là, eh bien, les genres changent parmi les acteurs, puisque certains acteurs deviennent hommes et femmes, et voilà. Donc, film que moi je trouve exceptionnel, Cloud Atlas n'a fait que 439 000 entrées en France. Les Wachowski ne font plus recette.
Bah non, depuis après Matrix, hein, en fait. Hein.
Mais là, en tout cas, c'était l'un des films, parce que c'est classé parmi les films indépendants américains, donc c'était l'un des plus gros budgets du cinéma indépendant américain. Ainsi s'achève ce blind test qui concernait les films traitant de l'esclavage. Et maintenant, on arrive quasiment à la fin de cette émission. On va parler des ressorties, films de Dino Rizzi qui nous ramènent à la période où les acteurs français faisaient des incursions dans le cinéma italien. Et c'était le cas de Catherine Deneuve pour ce film.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Alors certains films, dont Âme perdue, vous hantent ta vie. Pas forcément d'ailleurs les meilleurs, parfois pour des raisons obscures mais intimes. Alors ceux qui renvoient à vos premiers émois cinéphiles, qui vous impriment la rétine d'images, de plans que vous n'oublierez jamais. Alors la découverte, j'avais du haut de mes 13 ans, j'avais 13 ans à l'époque, en rentrant du collège, d'Âme perdue fut un choc total. Pourtant, je ne suis même pas convaincu d'avoir vu le film en entier quand il est passé. C'était vers 17h sur FR3 à l'époque. Alors, je ne connaissais même pas ni Dino Rizzi, ni Gassman, vaguement Catherine Deneuve, qui représentait pour moi une sorte d'icône du cinéma français, mais sans plus. Alors, l'image forte et angoissante de Vittorio Gassman dévorant une pastèque en s'agitant comme un malade mental dans la pièce où il se trouvait cloîtré m'avait littéralement terrorisé. La révélation finale me perturba pendant des semaines. Pourtant, il ne s'agissait pas vraiment d'un film d'horreur ou d'épouvante, mais en apparence d'un drame psychologique plutôt bourgeois. Mais commençons par le début. Alors le jeune Tino, Danilo Mattei, que l'on croisera, est dans des films alors beaucoup plus triviaux, comme Cannibal Ferox, débarque donc à Venise chez son oncle et sa tante, un couple austère, presque fantomatique, caricature volontaire des personnages rencontrés dans les films d'Antonioni marqués par le sceau de l'incommunicabilité. L'oncle, Fabio Stolz, figure inquiétante, est un homme rigide, coincé dans sa morale rigoureuse, tandis que sa femme, Elisa, soumise, semble vivre dans une angoisse chronique. À l'étage du dessus vit le frère de Fabio, un artiste devenu fou, qui vit reclus après avoir causé la mort de Beba, la fille du premier mariage d'Elisa. Alors, spécialiste émérite de la comédie à l'italienne, parmi ses films connus, on peut citer Les Monstres, Fanfaron ou L'Homme aux mille visages, Dino Rizzi a pourtant réalisé ses plus beaux films dans des registres très différents. Souvenez-vous de Fantôme d'amour, magnifique romance fantastique ou du poignant Parfum de femme, une sorte de mélo désenchanté. Âme perdue baigne, dès ses premières images, dans un climat étouffant et morbide. Venise, alors une fois n'est pas coutume, n'est pas filmée comme dans un dépliant touristique, mais comme une cité mortifère peuplée de secrets inavouables. Il peuple sur cette ville une tristesse infinie que Rizzi retranscrit à merveille, alors grâce à une utilisation pertinente de la topographie, rue déserte, devanture sale des habitations, autochtones aux visages ravagés, la photographie blafarde privilégiant les couleurs ternes, proche du sépia, restitue à merveille le climat un peu putréfiant d'un film qui rappelle certaines œuvres situées dans cette ville étrange comme Giallo à Venise ou Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Alors rarement un lieu aura projeté sur le spectateur un effet aussi glaçant, une austérité aussi éprouvante. Ensuite, la vaste demeure dans laquelle vit le couple, tout droit sorti d'un conte d'Edgar Poe avec ses couloirs interminables et ses pièces sans vie, semble figée dans le temps, un espace clos coincé dans un moment précis lié à un trauma originel. Alors le poids de l'éducation, hein, sous-tendu par la religion, les frustrations sexuelles qui amènent ce couple à vivre dans une rigidité morale extrême, nous entraîne dans un univers aussi puritain qu'inquiétant, dissimulant un secret effrayant. À travers le regard vierge et naïf du jeune Tino, le spectateur découvre un monde peuplé de faux-semblants. Angoissant jusqu'à l'absurde, un perdu s'empare d'un sujet bunulien pour le pousser jusqu'au bout de sa logique terrifiante. Construit comme un, on va dire, le film est construit comme un pur film de genre. C'est presque un thriller, en fait, un thriller à l'italienne, un giallo même. Prenant et vraiment inquiétant, le film de Risi est aussi une virulente critique des institutions familiales, du poids de l'ordre et de la morale. Alors, habité par une mise en scène épurée, en accord avec le sujet traité, et doté d'un twist final qui fait froid dans le dos, Âme perdue est un immense film qui traite de la folie à travers la schizophrénie d'un individu. Vittorio Gassman est extraordinaire, tandis que Catherine Deneuve, dans un rôle très proche de celui de Tristana, s'avère assez bouleversante, même si elle joue un peu comme d'habitude dans les années 70, ces sortes de femmes un peu très belles et très froides. Voilà, je vous le conseille vivement. C'est un film qui ressort dans une version restaurée.
Évidemment.
Évidemment, parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Mais comme il ressort dans même pas 10 cinémas, on va conseiller le DVD ou, ou le Blu-ray.
Il existe en DVD pour l'instant. Et à mon avis, il va y avoir une sortie DVD et Blu-ray dans très peu de temps. Voilà. Alors... Enfin, petit coup de pub, car j'ai eu la chance de participer au 100e ouvrage de Rouge Profond, le sang de Rouge Profond, dans lequel j'ai inclus un petit texte sur Âme perdue. Alors l'éditeur, Guy Astic, a convié 100 auteurs, dont certaines figures incontournables, comme Jean-Baptiste Auré, Jean-Pierre Puters, Jean-François Roger, même des cinéastes comme F.J. Hossang, pour rédiger un texte court sur un plan extrait d'un film. Alors au final, il y a presque autant d'approches que d'auteurs, analyse filmique de la scène, résumé de l'histoire, évocation d'un souvenir, essais, réflexions, étymologie, et même... Certains ont fait un poème à travers un plan. Voilà. Le choix des films s'avère hétéroclite. On peut passer de Murnau à Dirty Dancing, en passant par Phantom of the Paradise, Rester Vertical, Massacre à la tronçonneuse. Et puis, il y a les grands classiques aussi, d'Orson Welles, Billy Wilder, Stanley Kubrick, Buster Keaton et tant d'autres. Alors voilà, cet ouvrage est à picorer. On peut le parcourir en avant, en arrière ou au hasard. Les textes finissent par former, on va dire, une jolie mosaïque permettant à la fois de se remémorer des films oubliés, d'ouvrir des pistes de réflexion et de faire des découvertes. Et donc, c'est édité chez Rouge Profond.
Il n'y a pas de mal à se faire un peu d'autopromo, surtout pour un bel ouvrage comme celui-ci. Et tu vas nous parler alors d'un autre ouvrage que tu as très apprécié. C'est Lexinema. Et donc, tu en parles tout de suite.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Puisant des mots oubliés, inconnus ou simplement savoureux de la langue française, ce dictionnaire est un hommage irrésistible adressé au cinéma d'antan, à l'imaginaire et aux objets. Alors c'est ainsi que se présente Lexinema, articulation ludique et poétique entre une succession de mots insolites et anachroniques, alors parfois à connotation burlesque, accouplée avec des photogrammes issus du cinéma de patrimoine, alors entre muets, cartoons, ces classiques oubliés des années 30-40. Alors ce petit voyage désuet et spirituel au pays des mots, sorti de l'imaginaire fétichiste de Christopher Marco, alors s'avère un enchantement pour les oreilles. La musicalité de ses sonorités, alliée à des définitions souvent surprenantes, ravive un plaisir perdu, parfois en littérature, où seule la narration l'emporte. Alors Popeye, Méliès, Charlie Chaplin, Buster Keaton, David Griffiths, les Looney Tunes, John Ford et tant d'autres illustrent à merveille des termes parfois familiers, mais le plus souvent alors totalement inconnus, sans doute puisés en partie, inconsciemment ou non, dans le dictionnaire d'Émile Littré paru entre 1873 et 1877. Alors cet ouvrage modeste et euphorisant ravive aussi en creux que si la langue évolue, elle se perd aussi, et de rappeler à travers une forme singulière la richesse d'un vocabulaire stimulant tour à tour excentrique et érotique, onirique et ironique. Alors la collision entre le texte et l'image produit une sorte de mini-plongée fétichiste au cœur du cinéma, alors donnant furieusement envie de redécouvrir certains films d'antan, et par esprit coquin, de réemployer dans des discussions ou des écrits, alors des mots tels que ulitrique, yoyoté, uxoricide ou encore somniloqui.
Alors, qu'on a du mal à prononcer.
Alors, condensé en moins de 150 pages, ce petit livre illustré à l'iconographie précise sort chez Lobster. Alors, plus connu pour son travail éditorial sur les DVD Blu-ray, il ressuscite le désir de rêmer. Alors, c'est aimer à nouveau, apparemment. Voilà, de rêmer et surtout de l'offrir pour les fêtes de Noël, cadeau idéal et rafraîchissant en ces temps de sinistrose, en espérant presque un deuxième volume à ce précieux lexique de la langue française.
Qui coûte 12 euros seulement. Donc,
voilà, et pour un petit cadeau comme ça, qu'est-ce qu'un zytologue ?
Eh bien, je ne saurais dire.
Eh bien, c'est un équivalent de l'œnologue pour la bière, c'est-à-dire celui qui l'étudie, l'élabore et la goûte.
Non, mais surtout parmi ceux qui la goûtent, hein, je crois.
De quoi s'agit-il ?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous ?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute. Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
Au menu de Cinérama la semaine prochaine, au moins eh bien, deux réalisateurs, Robert Guédiguian et Dominique Moll, pour leur dernier film.